Chapitre 13. Alors qu'Amos et ses amis sortaient de la villa dans de très joyeuses dispositions, Bannon se félicita d'avoir de la compagnie après un banquet des plus étranges. Marchant plus ou moins droit dans les rues pavées, Jed et Brock beuglaient à tue-tête des plaisanteries paillardes. Après la haute ville, les quatre fêtards sortirent du niveau intermédiaire où vivaient de riches nobles, en passant devant plusieurs vergers d'orangers et de citronniers dont l'odeur donna le tournis à Bannon. À cause du vin de sang dont il avait abusé malgré les réticences qui lui inspiraient, le jeune homme avait lui aussi quelques difficultés à ne pas zigzaguer.
« C'est quoi une hyaxène de soie? Vous ne m'avez toujours rien dit. »
Alors que Bannon aurait voulu parler d'un ton assuré, les mots sortaient lentement de sa bouche et sa langue fourchait sur certains. Jed et Brock éclatèrent de rire.
« Tu le sauras bientôt, »
répondit Amos.
« Dans le quartier des hyaxènes, il y a plusieurs dachas, mais... « j'ai mes préférés. Nous y avons un compte, »
ajouta Jed.
« Et je paierai pour toi, » dit Amos. « Cette première fois sera ton cadeau de bienvenue. »
Le fils de Thora et Maxime sortit une bourse de sa poche, en tira 4 pièces d'or et les tendit à Bannon.
« Prends-les au cas où. »
« Au cas où ? » ?»«
Si tu veux t'offrir des services spéciaux, par exemple. »
« Merci. »
Quand j'étais petit, ma mère me répétait sans cesse de remercier les gens.
J'apprécie le geste, Amos, et c'est très gentil de me faire découvrir la ville.
Conscient qu'il bavassait stupidement, Bannon fut rassuré de voir que ses compagnons n'en avaient rien à faire. Même si ses bottes lui maintenaient bien les chevilles, marcher droit devenait de plus en plus difficile, et d'étranges brumes envahissaient peu à peu son esprit. Sur Shiria, dans leur enfance, Bannon et Yann avaient vu un bateau entrer dans le port avec sa cargaison de produits de série Mundi. Pendant que les marins déchargeaient des caisses de médicaments, des rouleaux de tissu, des outils de charpentier et de nouveaux équipements pour la collecte des choux, le père de Bannon était descendu sur les quais. De leur côté, les fermiers insulaires proposaient du chou en saumure et une bière au goût âpre brassée avec une variété de varech qui poussait le long de la côte. Le père de Bannon avait rencontré le second du navire et payait très cher 3 bouteilles d'eau de vie récemment sorties d'une distillerie de Larikane. Le suivant discrètement, Bannon et Yann l'avaient vu cacher 2 des bouteilles dans la réserve à bois derrière la maison. Avec la 3e, le vieux Saligo s'était saoulé à mort. Curieux, Bannon et Yann étaient allés lui chiper 1 des bouteilles survivantes. Réfugiés avec leur butin dans leur petite crique secrète, ils s'étaient mutuellement défiés de boire l'alcool hors de prix. Le gosier brûlé par la première gorgée, Bannon avait dû lutter pour ne pas tout recracher. Yann ayant bu plus que lui, il s'était senti obligé de rester à son niveau. À la 3e lampée, l'eau de vie avait commencé à lui plaire. Après avoir sifflé la moitié de la bouteille, les 2 gamins s'étaient sentis à la fois nauséeux et euphoriques. Des picotements partout, la tête légère, Bannon aurait juré que le monde tournait autour de lui. Sous l'effet de l'eau de vie, il avait éprouvé le désir de boire plus, afin de maintenir et de renforcer les délicieuses sensations qui, en lui, le disputaient à une formidable envie de vomir. La bouteille terminée, les 2 garçons, dans un état second, avaient décidé de rentrer chez eux puisqu'il se faisait tard. Débutant en matière d'ivrognerie, ils avaient manqué se briser 10 fois le cou en chemin. La marée étant montée dans leur refuge préféré, ils s'étaient retrouvés trempés jusqu'aux os et pas très enclins à escalader la falaise à la paroi dangereusement friable. Par miracle, ils avaient réussi à ne pas mourir noyés ou l'échine brisée sur les rochers. Alors que Bannon vomissait tripes et boyaux, Yann semblait s'être amusé comme un petit fou. Après qu'ils se furent séparés, Bannon était rentré chez lui, où son père fulminait. Incapable de parler, à peine en mesure de tenir sur ses jambes, le jeune poivreau n'avait pas pu donner le change. Après l'avoir traité de voleur, d'ivrogne et de honte de la famille, son géniteur l'avait roué de coups. Davantage à cause de l'alcool que de la rouste, il était resté inconscient 24 heures, se réveillant avec l'impression que sa tête avait doublé de volume. Au souvenir des imprécations de son père, il avait compris que ce Saligo ne s'était pas indigné parce qu'il avait bu, mais parce qu'il lui avait subtilisé 1 de ses précieuses bouteilles. En larmes, sa mère s'était occupée de le soigner, lui soufflant quelques mots tandis qu'elle lui tamponnait le visage avec une serviette humide.
« Ne deviens pas comme lui. C'est un sale type. Pas à cause de l'alcool, mais l'ivresse l'aide à laisser libre cours à ses démons. »
Alors qu'il titubait derrière les 3 fêtards d'Ile Dakar, Bannon repensa à ces quelques phrases. L'estomac retourné, il songea qu'il n'avait pas vraiment bu de son plein gré. Cela dit, vomir devant ses nouveaux amis ne semblait pas une très bonne idée. Serrant les dents, il pensa à autre chose et attendit que la nausée se calme un peu. Les rues d'Ildakar étaient éclairées par des sphères blanches fixées en haut de grands poteaux. Dessus, on distinguait des runes de sortilèges. Si les quartiers chics étaient illuminés presque comme en plein jour, plus on descendait, plus on s'immergeait dans la pénombre. Bientôt, les rues se transformèrent en venelles, où des bâtiments éclairés par des bougies se pressaient les uns contre les autres.
« Si tu nous en disais plus sur les archives de surplomb du monde !» proposa Amos. « C'est une bibliothèque, si j'ai bien compris. Ce lieu est dédié aux livres ?»« En tout cas, » grogna Jed, « ça ne peut pas être plus grand que les bibliothèques d'Ildakar. »«
Oh que si !»
s'écria Bannon.
« On parle des plus vastes archives du monde, dissimulées au début des Grandes Guerres il y a 3000 ans de ça. »«
Je n'en crois pas un mot !»
lâcha Amos.
« Douce mère la mer, c'est la stricte vérité. Surplomb du monde est niché dans un labyrinthe de canyons de l'autre côté de Colader à l'ouest. Pendant des millénaires, un camouflage protégeait le site, exactement comme votre linceul. »«
Si c'est vrai, comment avez-vous trouvé cet endroit ?»
demanda Brock, presque menaçant.
« Le camouflage s'est dissipé et nous avions un guide. »
Bannon repensa à Chardon, qui n'avait pas ménagé ses efforts pour les conduire à destination.
« Pour détruire le buveur de vie, nous devions étudier de très anciens grimoires. »
Les trois fêtards se regardant bizarrement, Bannon se demanda s'il n'en avait pas trop dit. Avec une cordialité mal feinte, Amos lui tapa sur l'épaule.
« Mon gars, tes histoires sont formidables !»
Sur ces mots, le fêtard approcha d'un pas sautillant d'une porte gardée par un type assis sur un tabouret.
« Notre dacha favorite !»
annonça-t-il à Bannon.
« Ici, les Yaksen de soie sont triés sur le volet. Les meilleurs croisements !»
Derrière les fenêtres du bâtiment, une curieuse lumière orange semblait produire à la fois assez de clarté et de pénombre. Sur son siège plutôt confortable, le portier arborait une barbe bien taillée et des cheveux clairsemés. D'une coupe très correcte, ses vêtements sombres contrastaient avec les vives couleurs qu'affectionnaient les nobles détenteurs du don. Au pied du tabouret, un pot de cuivre débordait de pièces.
« Bonsoir, maître Amos, »
dit le type, souriant mais un peu soupçonneux.
« Toujours ravi de vous voir. »
Des propos démentis par le ton du portier. Amos laissa tomber plusieurs pièces dans le pot.
« C'est pour Bannon, notre nouvel ami. Il ne saura peut-être pas comment se débrouiller. »«
Je peux apprendre ?»
affirma Bannon, même s'il ne se sentait pas très sûr de lui.
« Si je suis devenu un très bon escrimeur, c'est parce que Nathan m'a montré. »«
Dans le quartier des plaisirs, on n'a pas besoin d'armes. »
lâcha le cerbère, les yeux baissés sur la poignée de Solide.
« Ce soir, il te faudra une toute autre lame, jeune homme. »«
Solide ne me quittera pas, au cas où nous devrions nous défendre. »
lâcha Bannon avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Le quartier des plaisirs? D'après ce qu'il voyait de l'intérieur, ce lieu ressemblait à une maison de jeu, mais ça ne paraissait pas très cohérent avec le reste. Dès qu'il fut entré et eut découvert les splendides femmes allongées sur des divans, Bannon s'en voulut de ne pas avoir compris plus tôt.
« Les Yaksen de soie sont des prostituées ?»
demanda-t-il.
Plusieurs femmes s'occupaient déjà d'un client et d'autres attendaient qu'un libidineux les choisisse.
« Une dacha, c'est une maison de tolérance ?»«
Par les gonades du gardien, non, mon pauvre vieux. Il ne s'agit pas de simples prostituées.
Les Yaksen de soie sont des courtisanes, spécifiquement croisées pour remplir cette fonction. »
L'esprit encore embrumé par le vin, Bannon ne trouva rien à dire pour se défiler. Se laissant entraîner par ses amis, il avança dans un salon où des odeurs d'encens se mêlaient à celles de l'étrange fumée qui flottait dans l'atmosphère. Amos se tourna vers le portier.
« Mélodie est libre pour moi ?»«
Comme toujours, maître Amos. Pour votre nouvelle amie, je propose Kayla. Elle est jolie et très expérimentée. »«
Avec Bannon, ça ne changera pas grand-chose. »
marmonna Jed. Il approcha d'un groupe de cinq femmes extraordinairement belles, debout près d'un brasero à encens. Les yeux rivés sur quelque chose qu'elles étaient seules à voir au milieu de la pièce, les pauvres filles semblaient à garde.
Kayla ?
Demanda Amos. Une femme aux longues boucles couleur cannelle leva les yeux et eut un sourire sans joie.
C'est moi.
Brock tira la fille par le bras et la poussa vers Bannon. Puis, il choisit pour lui une fille à la peau pâle et à la même couleur de cheveux que Kayla.
Ce soir,
dit-il,
j'aime ton apparence.
Il saisit le bras de sa proie. Jed opta pour une brune, à qui il ne daigna pas parler avant de l'entraîner vers un divan. Sans dire un mot ni croiser son regard, Kayla resta plantée devant Bannon. On eût dit une poupée, mais vivante et dotée de tous les attributs de la féminité. Clignant lentement des yeux, elle ne souriait plus. Sans trop savoir pourquoi, Bannon pensa à un mouton occupé à paître dans un champ sans avoir conscience d'une menace ou sans s'en soucier. Conscient qu'il s'empourprait, le jeune escrimeur se félicita qu'on n'y voit pas grand-chose. Courtois, il tendit la main à Kayla.
« Je m'appelle Bannon. Ravi de vous connaître. »
« Merci. Moi aussi, je suis enchanté. »
Le jeune escrimeur baissa la voix.
« Que sommes-nous censés faire à présent ?»«
Tout ce que vous désirez, »
dit Kayla à voix haute pour que tout le monde entende. Des gloussements montèrent d'un des divans. D'âge plus que mûr, un noble corpulent venait d'ouvrir le corsage d'une fille bien plus jeune afin d'exposer à tous les regards sa superbe poitrine.
« Douce mère la mère !»
s'étrangla à demi Bannon. Kayla était très jolie et sa robe transparente en révélait beaucoup sur ses charmes, une fente dévoilant juste ce qu'il fallait de ses cuisses et de ses mollets.
« On devrait s'asseoir ?»
balbutia Bannon. Il tituba jusqu'à un divan et sa belle le suivit docilement.
« Où est Mélodie ?»
beugla Amos en balayant la salle du regard. Son cri dérangea les clients déjà assis avec une yaxène de soie. Sur un côté de la pièce, un rideau orange s'écarta pour laisser passer une petite blonde aux grands yeux qui semblait noire à la chiche lumière de la dacha. Elle avança vers Amos qui ne broncha pas, attendant qu'elle les rejoint.
« Je suis là pour vous, maître Amos !»
s'écria-t-elle.
« Bien sûr que t'es là pour moi !»
Prenant Mélodie par le bras, le fils de Thora et Maxime alla rejoindre Bannon et Kayla.
« Ces yaxènes de soie sont d'une parfaite beauté, les meilleures créatures d'île Dakar !»
« C'est vrai, » concéda Bannon. « Elles sont superbes. »
Kayla s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs jambes se touchent. Puis elle glissa un bras autour de sa taille et se serra contre lui, plus pour tenir droite que par passion.
« Pendant les antiques guerres, les sorciers de chair ont créé des armes monstrueuses, » dit Amos. « Mais leur chef-d'œuvre, ce sont les yaxènes de soie. »
« Bon sang, que quelqu'un nous apporte du vin. J'ai un invité, moi, il faut que je lui en mette plein la vue. »«
Je vais bien, inutile de... »
Avant que le jeune escrimeur ait fini sa phrase, une servante en robe ordinaire, pas vraiment jolie, accourut avec une carafe et servit du vin rouge aux deux clients sans en proposer aux filles.
« Les yaxènes de soie sont des courtisanes parfaites, » dit Amos. « Sans défaut et si soyeuses, justement. Touche la tienne, tu verras. »
Il prit la main de Bannon et la posa sur l'épaule de Kayla.
« Oui, une police est incroyablement douce. »«
Mais si tu veux faire la conversation, passe ton chemin. Ce sont des bêtes stupides, élevées spécialement pour les dachas où nous venons prendre du plaisir. Alors que les yaxènes normaux sont des animaux de somme, ceux-là ont une autre fonction. Et ça ne les gêne pas. Qu'en dis-tu, Mélodie ?»
La fille hocha la tête.
« Et toi, Kayla ?»
Même réaction.
« Tu veux dire que ce sont des bêtes d'élevage dotées d'un corps de femme ?»«
Les sorciers de chair les ont développées pour des besoins spécifiques. »«
Elles te satisferont, mais n'attends rien d'autre d'elles. »« Tiens, prends Mélodie, par exemple. Son nom laisse penser qu'elle sait jouer d'un instrument ou chanter. »« Un jour, où j'étais d'humeur romantique, je lui ai demandé de m'interpréter un hymne à l'amour. »«
Mon vieux, on aurait dit les miaulements d'un chat coincé dans la cage d'un sorcier de chair. »«
C'est la vérité, Mélodie. »
« Oui, maître Amos.
Montre-lui.
Ouais, chante pour Bannon. »
Sans hésiter, la fille obéit. La voix chevrotante, elle multiplia les couacs et trébucha sur presque tous les mots d'un texte rédigé dans une langue inconnue de Bannon. Avant la fin du premier couplet, Amos la gifla pour la faire taire.
« Quoi que je dise, t'avises plus jamais de chanter !»
Une deuxième gifle fit basculer Mélodie du divan. Bannon se leva d'un bond.
« Arrête ça, tu n'as pas le droit !»
Amos en sila de surprise.
« Bien sûr que si. Les yaksen de soie sont faites pour ça. Tu crois qu'elles servent seulement au sexe ? Bientôt, tu verras que non. »
Amos vida son verre, puis il traîna Mélodie dans le salon, dérangeant plusieurs couples sur son passage, et poussa la pauvre fille dans une petite pièce vide. Les poings serrés, Bannon inspira à fond, et les effets de l'alcool se dissipèrent en un clin d'œil. Quand son père traitait sa mère de putain et l'accusait de turpitudes imaginaires, c'était un prétexte pour la rouer de coups. Enfant, il ignorait ce qu'était une putain. Plus tard, fréquenter des marins l'avait déniaisé sur le sujet. Sa première véritable expérience de l'amour, il l'avait connue avec Audrey, Laurel et Sage, à surplomb du monde. Superbe et très gentille, elle lui avait appris beaucoup de choses, en particulier à prendre du plaisir et à en donner. Encore aujourd'hui, ses souvenirs le grisaient, sauf quand il se rappelait que Victoria avait transformé en monstre ses trois petites amoureuses. De la pièce où Amos avait entraîné Mélodie, montèrent des bruits sourds et des gémissements. Alors que Jed et Brock s'étaient repliés dans d'autres niches privées, le gros noble continuait à déchirer les vêtements de sa yaksen sous le regard de tous.
« C'est ça qui te ferait plaisir ?»
demanda Kayla. Se levant aussi, elle se pressa contre Bannon, soumise d'avance à tout ce qui lui passerait par la tête, comme si ça ne la concernait pas. Pensant au coup qu'elle avait déjà dû recevoir, le jeune escrimeur eut un haut-le-cœur.
« Non, pas ça. Ni rien d'autre, d'ailleurs. Je crois que je vais rentrer et m'offrir une bonne nuit de sommeil. »
Kayla ne tenta pas de le dissuader. Tirant sur sa robe, elle s'installa confortablement et attendit que quelqu'un d'autre la remarque. Des larmes aux yeux, Bannon sortit de la dacha. Alors qu'il redoutait d'entendre des quolibets sur son passage, les autres clients ne lui accordèrent aucune attention. Le portier leva les yeux, puis hocha la tête avec ce qui ressemblait à du respect. Comment interpréter cette réaction? Le type plongea une main dans le pot et en retira plusieurs pièces.
« Ton argent, jeune homme ?»«
C'est celui d'Amos, pas le mien. »«
Prends-le quand même, puisque tu n'as pas consommé ce qu'il a réglé. »
Devant le regard insistant du portier, Bannon accepta les pièces qu'il pourrait toujours rendre plus tard. Dans les rues sinueuses, après s'être trompé plusieurs fois, il quitta le quartier des plaisirs pour déboucher dans un secteur où on trouvait des boutiques, des comptoirs commerciaux et des habitations assez modestes.
« Douce mère la mer !»
souffla-t-il, désorienté par la légendaire île Dakar. Pour retrouver son don, Nathan avait dû y venir, c'était normal. Mais s'il pouvait repartir bientôt... S'il continuait à monter, songea Bannon, il arriverait automatiquement près de la tour, puis de la villa. Inutile que quiconque sache ce qui lui était arrivé. Au détour d'une rue, il se retrouva face à une silhouette en tunique à capuche sombre. À la vitesse de l'éclair, l'inconnu plongea une main dans son sac et en sortit un petit objet argenté qui refléta la lumière des lampes. Puis il planta son éclat de miroir entre deux blocs de pierre.
« Vous là, que faites-vous ? »
demanda Bannon, la main sur la poignée de son épée. L'inconnu détala et se fondit dans les ténèbres d'une ruelle. Bannon approcha du mur et constata qu'il s'agissait bien d'un éclat de miroir. Le capitaine Avery avait parlé de rebelles et d'un certain masque miroir. Alors que sa tête recommençait à tourner, le jeune escrimeur se remit en chemin, pressé d'arriver dans sa chambre, même s'il doutait qu'il existât pour lui un endroit sûr à Île Dakar.